France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Pourquoi est-on attaché à une marque ? C'est notre thème ce matin. Quel est le lien qui unit le consommateur à sa marque préférée ? Des marques que nous croisons à longueur de journée, en moyenne 3000 par jour. Les marques, nous dira notre invité Benoît Lebrun, qui ne se réduisent pas à un nom ou à un logo. Elles sont non seulement pourvoyeuses de sens, mais aussi de redoutables machines idéologiques qui influencent nos manières de sentir, ressentir, de parler ou encore de penser. Des marques que nous rappellera Raphaël Liorca qui parviennent à comprendre ce que vivent le consommateur citoyen davantage parfois que le personnel politique. À l'heure du pouvoir d'achat en berne, nous verrons si la marque est décisive quand nous achetons des produits alimentaires, d'entretien, d'hygiène, de beauté ou encore d'électroménager. Êtes-vous attaché aux marques 01 45 24 7000 sans oublier l'appli Radio France en laissant messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Plus besoin d'autre chose. Profitez à plein de toutes les nouveautés de Super Persil. Le produit tout lavage, c'est vraiment Super Persil.
Les gourmandises Balzen sont en vente ici. Demandez Balzen.
Balzen, on aime ma...
À l'entracte, mais il y a les Mico.
Demandez Mico, le délicieux chocolat glacé. Demandez Mico.
Un coup de barre. Mars. Et ça repart.
Nesquik, j'en ai une énorme envie.
Hollywood chewing gum, pour être vrai, pour être bien. Hollywood chewing gum.
Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barovo Maltine, c'est de la dynamique.
Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Medley signé Yann Ozaman. Bonjour Benoît Lebrun.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de marketing à l'ESCP, co-directeur de l'Observatoire Marque, imaginaire de la consommation et politique à la Fondation Jean Jaurès, et vous avez publié un ouvrage de référence, 5e édition du Que sais-je, consacré à la marque. Bonjour Raphaël Liorca.
Bonjour
vous
Ali,
êtes
bonjour à tous.
Communicant, co-directeur du même observatoire, et vous avez publié aux éditions de l'Aube le roman national des marques, le nouvel imaginaire français. Benoît Lebrun, le Robert Illustré 2026, nous dit qu'une marque, c'est un signe matériel, une empreinte sur une chose servant à la distinguer, à la reconnaître ou servant de repère. Le produit de marque, c'est celui qui porte une marque connue, appréciée. Et du point de vue du professeur de marketing que vous êtes, qu'est-ce qu'une marque ?
Alors en fait, les marques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, existent depuis très longtemps.
Elles ne datent pas de la révolution industrielle.
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a retrouvé des marques datant de 3, 4, 5 000 ans avant Jésus-Christ, d'ailleurs en Chine, ce qui est assez cocasse. Et c'est un dispositif qui a été inventé par des artisans pour différencier des productions quand il y avait par exemple un seul four pour faire de la poterie, ou etc. Donc, à la base, la marque, c'est une signature qui engage un geste, un savoir-faire. Donc, c'est cette fonction signature qui est très très importante et qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les marques qu'on appelle patronymiques, c'est-à-dire les marques qui reprennent le nom du fondateur. Et ça, on trouve ça notamment dans les industries créatives, le luxe et la mode. On a pratiquement que des marques patronymiques. Alors après, il y a deux dimensions dans une marque. La première, c'est la notoriété. Et ce qui est intéressant, c'est que on a commencé l'émission en fait avec des messages des années 50-60, on était au basculement, enfin on passait de la réclame à la publicité. Et en fait la réclame, ça consistait à répéter un nom de marque pour créer de la mémorisation. Donc l'une des questions fondamentales qui se pose à toute marque, c'est la présence à l'esprit, parce que notre cerveau est encombré. On est soumis à beaucoup de marques. Il faut savoir que chacun d'entre nous connaissons à peu près 5000 noms de marques. C'est considérable. Les marques, en fait, font partie du quotidien, en tout cas les noms, parce que certains noms deviennent génériques, hein, ce qu'on appelle un branduit. Donc ça veut dire que...
Frigidaire, par exemple.
Frigidaire, Post-it, Coca, etc. Caddy. Donc ça veut dire que, en fait, les marques, elles font partie de la vie, elles font partie du langage. Et quand on commence à rentrer dans le langage, c'est là qu'on rentre dans des questions d'idéologie et de manipulation.
Alors Benoît Lebrun, le véritable usage économique de la marque remonte au 15e siècle. C'est à partir du 18e siècle que l'importance des marques augmente. Et puis c'est au 19e siècle, avec l'essor de la publicité, que l'essor des marques se déploie.
Alors c'est la publicité, mais c'est surtout l'apparition du libre-service. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'une structure de marché qui était régie par des médiations humaines. On achetait à un vendeur, il y avait une vente au comptoir. Et en fait, en instaurant le libre-service, on a créé un face-à-face entre ce qu'on a appelé le consommateur et les produits. Et finalement, c'est le packaging qui a commencé à faire le travail de séduction et de persuasion. C'est pour ça que le grand auteur américain Vance Packard a appelé le packaging le silent salesman, le vendeur silencieux, parce qu'en fait, il fait le travail d'attraction au produit au nez et à la barbe du vendeur. Donc, l'économie des marques, c'est une économie dans laquelle on remplace des médiations humaines par des médiations symboliques. Et c'est pour ça que très tôt sont apparus les personnages de marque, c'est-à-dire des fictions, pour donner l'illusion que quand même on va s'adresser à une personne.
Comme Bibendum, par exemple.
Comme Bibendum, comme Tony the Tiger, Monsieur Propre. Bon, ça c'est apparu un petit peu plus tard.
À partir de quand la marque est associée à l'idée de qualité, de légitimité, de prestige, de pérennité ?
Alors ça, c'est la fonction garantie de la marque. En fait, je pense que cette fonction a toujours existé, même au début, pendant l'Antiquité, parce que quand on liait sa marque à son nom, donc on engageait sa personne, alors il n'y avait pas encore le droit de la propriété intellectuelle et industrielle, mais néanmoins, la première fonction d'une marque, en fait, c'est une fonction de réassurance, c'est-à-dire, je connais la marque, donc je peux avoir confiance. Parce qu'encore une fois, il faut savoir qu'une marque, c'est une relation. C'est pas une chose, c'est une relation entre une entreprise et ses clients.
Raphaël Liorca, ce qui est passionnant avec les marques, c'est qu'elles vont peu à peu développer un discours qui déborde l'univers de leurs produits.
Et tout ça, je le tiens de mon maître, Benoît Lebrun, qui est à côté de moi, parce que je le précise pour nos auditeurs, ça a été mon professeur de marketing.
J'en suis honoré.
Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que moi, je venais avec beaucoup d'ambition de faire Sciences Po, l'ENA, j'étais très gorgé de politique. Bon. Et Benoît Lebrun, dans son premier cours de marketing, disait ça, justement. C'est-à-dire, en fait, vous êtes intéressé par la politique, vous êtes en train de passer à côté d'acteurs fondamentaux de la société qui s'appellent les marques commerciales, qui précisément... par leur discours, leur récit, la construction d'imaginaire par la consommation, sont en train d'avoir des rôles fondamentaux dans la façon dont les gens se projettent des notions aussi structurantes que l'amour, l'amitié, qu'est-ce que c'est qu'habiter le chez-soi, etc. Donc la dimension politique des marques et idéologiques, je le tiens directement de Benoît Lebrun. Alors, il y a un deuxième phénomène qui est quand même intéressant, c'est l'extension du domaine de la marque. C'est-à-dire que là, on parle depuis tout à l'heure de marques d'objets de consommation. On parle quand même de plus en plus, maintenant c'est devenu une banalité, mais un club de foot c'est une marque, un artiste c'est une marque, et même des hommes et des femmes politiques peuvent être des marques. C'était l'objet de mon tout premier livre qui s'intitulait La marque Macron, où j'essayais de regarder la façon dont un candidat à l'époque, Emmanuel Macron, s'était construit tout un dispositif symbolique, non pas en faisant de la com politique traditionnelle, mais en se construisant vraiment une marque, au sens d'articuler des valeurs, un récit et puis tout un tas de signes.
Comment s'est opéré ce glissement justement
De la marque
commerciale à des personnages, des hommes politiques, des artistes qui deviennent des marques.
Alors il y a un livre moi que j'avais trouvé très très intéressant qui date des années 60, Selling of the President, qui était un journaliste américain qui avait fait la campagne Nixon et qui avait raconté sa stupéfaction de découvrir que c'était des agences marketing, attention, ça va être très, très important de faire distinction avec les marques, mais des agences marketing qui faisaient la stratégie politique du candidat Nixon. Alors, il y avait une espèce de tableau, on disait, les électeurs, ce sont des consommateurs, la marque, c'est donc le président, part de voix, part de marché, donc il y avait une espèce de parallèle comme ça qui s'était installé, donc ça vient des États-Unis, des années 60, etc. Là où c'est important, et donc ça, c'est une notion directement Lebrunienne, je sais pas s'il faut inventer cet adjectif, mais le marketing part du consommateur. Donc, voilà. Et alors que ce que défend Benoît Lebrun dans ses différents ouvrages, c'est l'idée de dire que la marque, c'est défendre un projet. Et tout l'objectif de parler de la marque Macron, c'était non pas de dénoncer une forme de mise en consommation de la politique, c'était le fait de dire il existe au sein des marques une capacité très forte à porter des valeurs qui sont abstraites. Personne n'a jamais vu la République à œil nu, personne n'a jamais vu la liberté se balader dans la rue. Donc ce sont des notions abstraites et pour autant, il faut les incarner dans des histoires, dans des symboles, dans des objets très concrets. Donc au fond, la marque sait faire ça et donc l'appliquer aux politiques, c'est intéressant parce que ça, il y a une performance symbolique là qui est quand même assez efficace.
Le problème, Raphaël Lurca, c'est que en règle générale, on est fidèle à une marque. On est plutôt fidèle à une marque commerciale. La fidélité à une marque politique, elle est plus fluctuante. La fidélité à la marque Macron, en l'occurrence, Benoît Lebrun.
Bah en fait, on n'est pas fidèle de façon générale à des marques. En fait, on a fait des enquêtes qui montrent qu'il y a des catégories qui sont plus fidélisantes que d'autres. Par exemple, la catégorie qui arrive en tête, c'est la cigarette. On va trouver la lessive, on va trouver le shampoing, etc. Ça dépend des catégories et puis ça dépend des marques. Mais pour rebondir sur ce que disait Raphaël, je dirais que, en fait, on est passé d'une économie du produit à une économie des marques, de façon graduelle. Ce qui veut dire que la marque s'est séparée du produit, et elle s'est séparée du produit parce que les produits, en fait, se ressemblent de plus en plus. Donc ça veut dire que l'acte d'achat va porter d'abord sur la marque et plus sur le produit. Parce que quand vous achetez un produit à marque de distributeur, en fait, il est très, très similaire à un produit de marque nationale ou internationale. Donc, du coup, c'est la marque qui fait le travail. La marque, en fait, elle vise à donner du sens à ce qu'on achète. Donc, l'idée, c'est qu'on n'achète jamais uniquement de la matérialité, on achète un imaginaire. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus avec Raphaël. Et du coup, cet imaginaire, il peut aller incarner des vedettes de cinéma. Là, on voyait ce matin Benjamin Biolay qui sortait du studio. Et par rapport à la question de tout à l'heure, la une de Challenge ce matin, c'est est-ce que la marque Leclerc peut devenir, peut rentrer à l'Élysée ? C'est ça la question. Donc là on est à un moment de l'économie des marques qui fait que la notion de marque s'est complètement généralisée. Mais attention, c'est pas parce qu'on est connu qu'on est une marque. Il faut avoir du contenu et il faut avoir un projet.
Et on va y revenir. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Fondateur du cabinet de tendance Maison Casselli et co-auteur de La France sous nos yeux avec Jérôme Fourquet. Quel est le menu de votre chronique Les Français, mode d'emploi ?
Alors je vais parler d'un lieu marchand un peu exceptionnel parce que c'est un lieu de commerce sans marque. C'est le marché forain qui a encore une existence dans notre pays et qui a encore un rôle et une fonction à jouer.
France Inter.
Non, c'est la merde.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il n'y a plus de Benko, nulle part. Chez Carrefour, plus de Benko. À la Supérette, plus de Benko.
Rends bien vous face.
Mon matoc aille pas l'air, mon Patrick. Je boirai du Nesquik.
Ali Rébéi.
Pourquoi est-on attaché aux marques ? C'est notre thème ce matin en compagnie du professeur de marketing Benoît Lebrun et du communicant Raphaël Lurca. Alors Benoît Lebrun, il faut distinguer la marque entreprise de la marque commercial. Expliquez-nous un petit peu cette distinction.
En fait, une marque entreprise, elle est rattachée généralement à une institution.
Renault, par exemple.
Donc Renault, Danone, L'Oréal, ce sont des entreprises. Et donc, ça veut dire qu'il y a une physicalité de la marque entreprise, parce qu'il y a un patron, il y a un siège social, on peut rencontrer des gens, etc. Alors que une marque commerciale, en fait, elle est dans une relation qui est purement symbolique, parce que certes, elle va être affichée sur des produits, mais...
Par exemple, prenons l'exemple de Renault, oui. La marque commerciale, les marques commerciales de Renault, c'est Zoé, Clio, Twingo.
Twingo, voilà. Etc. Donc, il y a bien les deux niveaux de marquage, et pour une entreprise, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que je vais toucher mes consommateurs uniquement avec des marques produits ? Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que M&M's, en fait, c'est une marque du groupe Mars, et que ça veut dire Mars and Mars. Je pense que les gens ne savent pas, par exemple, que les Pringles appartiennent à l'entreprise Kellogg's. Alors, pourtant, c'est marqué dessus. Donc, il y a cette question du cautionnement. En fait, est-ce qu'une entreprise doit s'afficher derrière ses marques ? Et puis après, il y a aussi des cas un petit peu complexes. Par exemple, je prends le cas de Danone ou de L'Oréal. En fait, Danone, c'est à la fois le groupe Danone et c'est aussi une marque Danone produits frais. De la même façon, on a L'Oréal Paris et on a le groupe L'Oréal. Donc ça peut créer de la confusion qui est souhaitée ou pas par l'entreprise.
Alors la grande force d'une marque, c'est qu'elle détient le pouvoir d'évoquer des valeurs esthétiques, émotionnelles, affectives, qui dépassent largement la valeur fonctionnelle du produit. Oui. Par exemple, et vous le citez dans votre Que sais-je, cet exemple, un consommateur n'achète pas une bouteille d'eau minérale pour se désaltérer, mais une marque qui lui promet la bonne santé corporelle.
Oui, bah par exemple Evian qui promet la jeunesse éternelle. Donc la question c'est de savoir est-ce que j'y crois ou pas, et est-ce que je suis prêt à payer trois fois plus cher pour avoir l'illusion que je vais rester jeune en buvant de l'Evian, alors que j'aurai le même effet avec de la cristalline.
Si je comprends bien, la marque permet aux objets de devenir désirables. La marque, c'est quelque part la transformation du plomb en or.
Bah tout à fait, puisque nous sommes dans une société dite de consommation, c'est-à-dire c'est une société qui n'est plus une société de la subsistance mais de l'abondance. Nous passons notre temps à acheter des choses dont on n'a pas besoin, et donc la fonction de la marque, c'est de donner envie d'acheter des choses dont on n'a pas besoin.
Raphaël Liorca, quand on consomme une marque, je rappelle que vous publiez le roman national des marques, quand on consomme une marque, on consomme aussi une certaine vision du monde et de la société. Par exemple, quand je vais chez Ikea, j'achète pas simplement une bibliothèque Billy, j'achète également une certaine idée du bonheur à la suédoise.
Et ça, c'est très important, parce que quand on écoute des jingles à la radio, quand on voit passer des pubs à la télé, etc., on a l'impression que c'est assez inoffensif. Or, ça dessine effectivement des imaginaires de vie et qui font des marques, en fait, des acteurs historiques et culturels, qui souvent, alors pour les plus grandes d'entre elles, évidemment, marquent un avant et un après. Vous avez cité Ikea, alors moi, il se trouve que pendant ma thèse, jamais terminée, je le précise, j'avais passé plusieurs mois à regarder le catalogue Ikea et j'avais remarqué une chose, il n'y a jamais d'amis qui sont accueillis dans les espaces Ikea. C'est toujours recentré sur une cellule familiale extrêmement, extrêmement restreinte. C'est quand même un enseignement intéressant. Mais il y a d'autres exemples. La façon dont, par exemple, Tinder a construit
l'application
de rencontre, effectivement, qui n'est pas qu'une application de rencontre. C'est une application qui construit tout un imaginaire sur le célibat. C'est-à-dire que toute la représentation du ou de la célibataire, c'était le syndrome Bridget Jones. C'est-à-dire, c'est en fond, on est éploré, on s'est fait larguer, le célibat, c'est une étape intermédiaire entre deux relations. Non, Tinder construit l'idée selon laquelle le célibat, c'est pas du tout la destination, c'est pas le voyage, c'est la destination, justement. C'est-à-dire que c'est un état à part entière qui mérite d'être vécu. Dernier exemple, les trottinettes Lime. Alors, il n'y en a plus dans Paris, mais l'exemple des trottinettes, c'était celui proposé par le philosophe Éric Sadin, et là, il est très virulent, etc. Il disait, en fait, c'est tout l'imaginaire libertarien, ces trottinettes Lime.
C'est-à-dire ?
Et c'était très intéressant, parce qu'il disait, en fait, c'est quand même un objet qui me permet de passer d'un point A à un point B, sans aucun intermédiaire, et au fi de toutes les règles. Parce que le problème qu'il y avait avec les trottinettes Lime, c'est qu'on les foutait n'importe où, on pouvait les garer de façon totalement désordonnée, etc. Et lui, il disait, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de discours publicitaire Lime, qui dit vive Musk, bon, pour simplifier. Non, c'est par l'acte de consommation lui-même que s'infuse cette espèce de ce registre politique très puissant qui consiste à dire, en fait, la liberté totale et absolue, en tant que consommateur, je la réclame, et peut-être demain en tant que citoyen. Donc, vous voyez, c'est quand même par la consommation, il se passe en fait beaucoup de choses.
La liberté totale revendiquée par les libertariens. Petit cas d'école, Benoît Elbrun, l'une des marques préférées des Français, l'une des anciennes préférées des Français, c'est Leroy Merlin. Ouais. Ça raconte quoi, dans le prolongement de ce que vient de nous dire Raphaël Liorca, que raconte Leroy Merlin du point de vue du mode de vie, expliquez-nous.
En fait, Leroy Merlin a su donner du sens à un marché qui était un marché fonctionnel, qui était le marché du bricolage. Donc on allait acheter des clous, un marteau, etc. Et donc Leroy Merlin vend un projet sur l'échelle d'une vie. Et l'idée, c'est de dire, je vais t'aider à aménager en fait ta vie. Alors évidemment, moi je m'occupe de la dimension, tout ce qui est autour de la maison, le jardin, etc. Et l'idée, c'est de dire, je vais pas simplement te vendre des produits. Quand tu vas sortir du magasin, tu vas pouvoir, il y a des ateliers, on va t'aider à bricoler. Donc en fait, j'aide les gens. On est dans l'économie transformative, c'est-à-dire que j'ai un impact sur la vie des gens, un impact sur le long terme. On est partenaire, en fait, parce que ce que recherche une marque, c'est pas simplement de faire acheter, c'est de faire racheter souvent, de faire parler aussi d'elle. Et donc l'idée, c'est que je te permets permet de te projeter dans une espèce d'utopie de tu vas construire ta maison, ta destinée, donc je te projette dans ta famille future, etc. Il y avait une très belle campagne d'ailleurs là-dessus. C'était la vie comme un voyage, et en fait je t'accompagne tout au long de ce voyage. Exactement comme Michelin qui a réussi à devenir le partenaire de mobilité, pas simplement un vendeur de pneumatiques.
Jean-Laurent Casselli.
Ouais, peut-être qu'on peut rajouter sur le Roi Merlin et d'autres enseignes un peu iconiques de l'âge d'or du retail, hein, comme disent les professionnels dans le jargon, c'est-à-dire le commerce physique. Je m'apprêtais à donner la traduction à lire, rassurez-vous. Il est vrai qu'on remarque dans les palmarès hein, d'enseignes que le Roi Merlin, Leclerc sont assez hauts, mais que depuis quelques années, c'est le magasin Action auquel on a consacré une émission qui est en première place. Alors, pour plein de raisons, parce que c'est un magasin qui a des prix très accessibles, mais aussi parce que ce sont toutes des enseignes physiques qui ont une existence spatiale, géographique. On les voit partout quand on est en voiture, ici ou là en France, à l'inverse des marques de e-commerce, qui sont massivement plébiscitées par les consommateurs, hein, voire toute la polémique récente autour des petits colis qui viennent de Chine et de ces marques comme Chine et Temu notamment. Mais on se rend compte qu'il y a, j'ai l'impression, un écart affectif, émotionnel, entre ces marques de l'âge physique du commerce et les marques dématérialisées.
Et d'ailleurs, un autre exemple, Jean-Laurent, c'est la résistance de Primark, l'enseigne irlandaise, qui a choisi justement de garder des magasins physiques, de ne pas aller dans la vente en ligne. Et finalement, en fait, c'est totalement contre nature, mais c'est le modèle qui marche.
Alors, Benoît Lebrun, la grande force d'une marque, c'est d'apparaître comme légitime, incontournable, la meilleure dans son domaine. Comment y parvient-elle ?
Bah en fait, c'est tout un travail de communication qui consiste déjà à rentrer dans l'esprit du client.
Par le récit notamment ?
C'est par le récit, c'est par la répétition. Hein. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu des marques qui répétaient le nom. Il faut rentrer dans une quotidienneté et faire en sorte que finalement la marque soit perçue comme un partenaire incontournable de la vie quotidienne et que, par exemple, il faut rentrer dans des routines. Donc, par exemple, je me lève, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre telle boisson chaude. Je vais utiliser tel gel douche, tel dentifrice. Et on voit que, en fait, les marques qu'on connaît, ce sont des marques du quotidien. Donc, c'est des achats très, très fréquents, des achats peu chers, donc des achats sur lesquels, finalement, on ne va pas faire attention au prix, parce qu'il faut. La publicité, ça se finance, hein, donc ça se paye, hein, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de rentrer dans la famille.
Vous le dites justement, l'important, c'est d'accrocher les familles, et notamment les enfants. Oui. Qui vont être attachés à une marque qu'ils ont connue dans leur enfance et qui va les accompagner une grande partie de leur vie.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on voit par exemple avec la résurgence de Pokémon qu'en fait on est à la génération d'après, c'est-à-dire des parents qui vont expliquer à leurs enfants les pouvoirs en fait du Pokémon. Et finalement, derrière l'attachement à la marque, il y a toujours le lien avec quelqu'un d'important. Ça peut être le parent, les grands-parents, les cousins, les sœurs. Et en fait, donc, la marque, en fait, elle va incarner une relation très, très forte qu'on a vécue. Et on veut que cette relation ne meure pas. Donc, le fait de racheter la marque fréquemment, ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, sur la lessive. 67% des jeunes filles qui quittent le domicile parental utilisent la même lessive que maman parce que ça rappelle les odeurs, les gestes, tous les gestes du linge. Donc, c'est l'idée de la marque, en fait, fait durer quelque chose qui pourrait mourir.
Raphaël Yurka, les marques contribuent également au roman national, au récit national. Prenons l'exemple des États-Unis, les marques ont contribué à l'exportation du mode de vie américain, l'American Way of Life. En France, des marques parlent de notre pays, des grandes marques qui se sont emparées d'un discours sur le territoire.
Oui, alors c'est ça qui est assez neuf, en fait, que l'on voit apparaître depuis maintenant quelques années. Vous avez raison de parler des États-Unis parce que ça vient des États-Unis. Il y a depuis la guerre civile américaine, l'idée sur laquelle les marques ont un rôle très important pour ressouder une nation par la consommation. Et en France, ce que l'on voit apparaître, c'est effectivement tout un tas de marques qui racontent la France. Alors, le sujet n'est pas de savoir la France en arrière-plan, parce que ça, toutes les campagnes publicitaires ont toujours montré des campagnes, des montagnes, la Tour Eiffel. Non, là, ce sont des marques qui donnent leur définition de ce qu'est la France, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la formule du roman national des marques, en reprenant cette formule du roman national, qui est en principe l'apanage du politique ou des grands intellectuels ou des grands écrivains. C'est-à-dire cette idée de dire, on va proposer un récit qui va formuler une définition de ce qu'est la France et de ce que signifie être français. Là, moi, je l'ai interprété comme un signe des temps. C'est-à-dire que on avait lancé une enquête avec l'Institut de sondage IFOP et lorsqu'on demandait aux gens qui racontent le mieux la France aujourd'hui, on leur proposait une liste de 10 types d'acteurs génériques. Les humoristes, les écrivains, les intellectuels, les hommes, les femmes politiques, évidemment. Et c'est la 11e catégorie qui est arrivée première, à savoir personne. Donc, on t'en demandait aux gens qui racontent le mieux la France aujourd'hui, la première réponse, c'est personne. Et les politiques arrivent en avant-dernier. Et donc, la réponse, enfin l'hypothèse que je formule dans ce livre, c'est de dire, dans ce vide laissé par le politique, qui raconte de moins en moins le pays, qui a de moins en moins dans son discours quotidien, qu'on en entend tous les matins sur votre radio, c'est-à-dire au fond, quand je prends la parole, de quoi je parle, mais il parle quand même de moins en moins de ce qu'est le pays, de ce que ce sont ses valeurs, son identité, son histoire, ce à quoi elle croit. Et dans ce vide laissé par le politique, et bien les marques ont compris qu'il y avait un espace et une opportunité assez exceptionnelle. Et donc elles s'y sont mises progressivement pour produire leur définition de ce qu'est la France.
Et est-ce que ça contribue à l'attachement du consommateur aux marques ?
Alors ça, on l'a testé. Et il y a 2/3 des Français qui disent en fait, à choisir, je préfère une marque qui me raconte les paysages de la France, ses territoires, ses valeurs, etc. Donc ça veut dire que c'est un levier, y compris d'attachement, et un levier d'achat.
Ce qui est incroyable, c'est que même l'américain McDonald's a épousé cette tendance dans notre pays depuis le début des années 2000 et nous raconte également notre territoire, notre pays, alors que c'est une entreprise américaine, multinationale américaine.
C'est un cas quand même assez exceptionnel. Il faut remonter à 99, le démontage du McDonald's de Millau, orchestré par José Bové, qui à l'époque fait grand bruit et qui surtout provoque la panique de l'état-major de la marque en France et qui se dit en fait la greffe américaine risque d'être rejetée. Et donc leur réponse publicitaire, stratégique, et qu'ils n'ont eu de cesse de dérouler ces 26 dernières années, ça a été de dire, en fait, on va faire une stratégie d'intégration à la société française. Et leur slogan, leur mot d'ordre à l'époque, c'était de dire « Né aux États-Unis », c'est indéniable, mais surtout « Made in France ». Et c'est la première marque qui utilise cette appellation « Made in France ». Et effectivement, ces 25 dernières années, ils ont coché toutes les cases de ce que signifie être en fait une marque française. Une marque française, c'est une marque de conviviale. Ils ont lancé le Mac Café, par exemple, qui n'existait pas du tout ailleurs. Ils ont lancé le service à table, pareil, qui est un modèle dont le fast-food américain ne servait pas à table. Ils sont allés au salon de l'agriculture. Ils ont proposé, au moment de la crise économique de 2008, des menus à 8 euros, repas compris, entrée plat dessert peut-être pas, mais une petite salade, un petit burger et un petit Mac Sunday. Donc, vous voyez,
et ça, ça a contribué à renforcer le lien du consommateur avec McDo.
L'idée, c'était de dire,
voilà. Que le consommateur français, dès qu'on dit petit, forcément, c'est gentil, c'est mignon. Alors, il y a un point qui est important ici, c'est que, d'abord, ça pose la question de savoir quelle est l'origine, enfin, qu'est-ce que ça veut dire une marque américaine? Est-ce qu'une marque américaine, c'est une marque qui a été créée aux États-Unis, où on fabrique aux États-Unis? Bon, donc ça pose toutes ces questions, et en fait, que ça soit McDo, Nissan ou même Coca-Cola qui va vous expliquer l'embouteillage en France, etc. Donc ces marques ont réussi à faire oublier l'origine américaine. Et donc il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que quand on a parlé de l'américanisation des modes de vie, on a simplement pensé au fait que les gens allaient boire du coca et manger dans les fast-food. Certes, mais il y a une autre dimension qui est très importante, c'est qu'on est en train d'importer la vision consumériste de la culture américaine qui clairement fait l'adéquation entre la citoyenneté et la consommation. C'est-à-dire que pour un Américain, le bon citoyen, c'est le bon consommateur, sous-entendu de produits et de marques américaines. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de rentrer finalement dans les esprits, je pense, en Europe. C'est-à-dire qu'on va commencer à considérer la citoyenneté du point de vue, d'un point de vue qui est strictement consumériste, donc ce qui renforce d'autant plus le pouvoir des marques et des marques nationales.
Alors Benoît Elbrun, pour qu'un récit de marque fonctionne, il faut que le consommateur puisse identifier la marque, hein, grâce à des signes forts. Alors, oui. Il existe plusieurs types d'identifiants, par exemple le nom de la marque,
oui.
Qui peut être un sigle, c'est ça, un acronyme, comme oui. Fnac, hein, Fnac c'est oui. un acronyme, oui. un patronyme, oui. Christian Dior, oui. un mot composé, oui. carte d'or, une expression, la vache qui rit, ou alors un nom arbitraire, hein. Schweppes, on ne sait pas trop à quoi ça...
Ah bah si, parce que Schweppes c'est l'appétit.
Oui, mais bon...
Schweppes, 1798. Hein,
mais c'est un nom arbitraire, moi j'ai lu votre, oui. votre oui. que sais-je.
C'est
et
bien.
Puis ça peut être aussi un nom géographique, oui. et puis ça peut être aussi l'identifiant d'une marque, ça peut être aussi un attribut du produit.
Oui, Bah, par exemple, quand vous regardez, alors si je raisonne en termes de logo, vous avez certains logos qui reprennent le produit iconique, par exemple le logo Burger King reprend le burger, alors que McDo ne parle jamais de burger, et le logo Bic reprend la tête du stylo Bic.
L'attribut du produit, ça peut être par exemple, et c'est immédiatement reconnaissable pour le consommateur, c'est la cire du Babybel par exemple.
Oui, c'est la cire du Babybel.
Ou le packaging aluminium de la Péricube.
Oui, alors voilà.
Ça, ce sont des identifiants très forts.
Voilà, ce sont des éléments de design qui sont très souvent des éléments de packaging, donc couleur, forme, matière, qui vont permettre une identification instantanée, mais parce que généralement, ces produits ne sont pas copiables. Là, on cite des produits qui ne sont pas copiés.
Et puis, il y a aussi le personnage qui incarne la marque de façon durable. On a plein d'exemples en tête.
On a plein d'exemples en tête.
Quickie de Nestlé, Gros Quick pour notre génération,
voilà,
Le Géant Vert, Bibendum. Oui. Pourquoi c'est si important que ça de personnifier une marque de la sorte?
Et ben parce que justement, il faut sortir de la fonctionnalité, il faut sortir de l'abstraction. Et pour emblématiser un imaginaire, rien de mieux qu'un personnage, si possible fictif, mais dont on arrive à faire croire qu'il est réel. Il faut savoir que 63% des Français pensent que Monsieur Propre est une marque française.
C'est pour accrocher aussi les enfants, dès le plus jeune âge, de personnifier une marque de la sorte.
Oui, parce que ça fait rentrer en fait, la marque dans l'univers des enfants, parce que le personnage devient un doudou, devient un copain. Et par exemple, c'est la marque Milka qui avait très bien compris ça, qui à un moment a commencé à vendre des vaches en peluche, donc aux couleurs de Milka. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de rentrer dans l'intimité de l'enfant, de rentrer dans son lit, de devenir le doudou. Et c'est sûr que si je suis le doudou, bah, j'ai une exposition à la marque qui est quotidienne, et je peux pas me séparer de mon doudou. Je lui dois fidélité et loyauté, donc je vais acheter du Milka. Et après, la marque s'est étendue dans différentes catégories.
Allez, il est 10h40, l'heure de retrouver les Français mode d'emploi de Jean-Laurent Casselli.
Regardez Salomon, regardez.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors Jean-Laurent Casselli, vous nous parlez ce matin des marchés.
Vous faites le marché, vous Ali?
Oui.
Vous aussi les invités, vous faites le marché, vous connaissez les jours de marché?
Tous les samedis, chez moi.
Mercredi, samedi.
Mardi, vendredi.
Alors vous connaissez cette expression « on n'a que du beau » qu'on entend parfois sur les marchés. C'est le beau titre qu'a choisi pour son livre le journaliste Olivier Razemont. Livre
qu'on recevra la semaine prochaine.
Tout à fait. Livre qui vient donc de paraître. Livre consacré, vous l'avez compris, au marché forain, c'est leur nom officiel. Même s'il se tient encore sur la place du centre-ville, la place du marché hein, souvent, l'époque où le marché était central dans la vie des gens, elle est évidemment révolue. Les marchés représenteraient seulement 3 à 5% du total des achats alimentaires. Sont-ils 5 000, 8 000, 12 000 en France? On ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait en revanche, c'est que des marchés, il y en a partout sur le territoire. Dans les grandes villes, citons le marché d'Élis à Rennes, le marché Victor Hugo à Toulouse, pour faire plaisir à Ali. Dans les villes moyennes, certains marchés très réputés attirent les habitants, les touristes. Hein. Citons le marché de Cahors, celui de Dinard, celui de Digne-les-Bains, que je connais bien, le mercredi et le samedi surtout, et puis le marché de Die dans la Drôme, chez le Babacool. Les banlieusards ont aussi leur marché, dans les banlieues chics comme à Levallois-Perret, ou populaires comme à Oisem à Lille ou à Grigny en région parisienne. Alors qui va au marché? Ben, là encore, la réponse varie. Les marchés retrouveraient une certaine popularité auprès des acheteurs aisés. C'est la vision romantique hein, du marché uniquement bio ou de producteurs locaux. Et puis, il y a les marchés fréquentés par ceux qui ont peu de moyens, qui parfois n'ont pas de voiture et s'approvisionnent ainsi de manière économique. Parce que, contrairement à ce que la grande distribution veut nous faire croire, les prix bas toute l'année, c'est pas uniquement les promos en tête de gondole. Il n'y a pas plus économique que le marché. Pas de frais de marketing, peu d'emballage et de transport. Le marché, c'est le bon plan absolu encore aujourd'hui. Et pourtant, à l'heure où on ne nous parle plus que d'inflation et de pouvoir d'achat, pour faire plaisir à Benoît Helbrin, et ben les marchés devraient être pris d'assaut. Or, et curieusement, ça n'est pas forcément toujours le cas.
C'est toute l'ironie parce que le marché est un peu sous les radars et il inspire la grande distribution.
Oui, c'est le paradoxe. Dans la France périurbaine, les marchés sont souvent désertés en semaine parce que les habitants travaillent en dehors de la commune. C'est plutôt le triptyque Leclerc, Marie Blachère et Lidl qui reste incontournable. Mais les formats évoluent. Certaines enseignes s'inspirent de l'ambiance des marchés. C'est le cas évidemment de Grand Frais, devenu enseigne préférée des Français en quelques années avec ses quelques 320 points de vente. magasins qui sont agencés comme un marché couvert, avec toit incliné, façade de verre. Ça pourrait être des halles traditionnelles de centre-ville, sauf qu'il s'agit d'une enseigne qui s'implante en périphérie, privilégie l'aspect visuel et la qualité des produits à la provenance, c'est pas toujours très local, et c'est une enseigne surtout dans laquelle il n'y a pas de vendeur, c'est du libre-service, contrairement au marché. Et puis citons le cas des halles gourmandes, très à la mode, on pense aux halles Paul Bocuse près de la Part-Dieu à Lyon, à Dijon, Montpellier, Rouen, Toulon, on a vu ces halles un petit peu partout se former. Alors à première vue, il s'agit d'une nouvelle forme de marché couvert, ils sont d'ailleurs souvent installés dans des bâtiments classés, les fameuses halles, ou dans des friches industrielles rénovées. Ce sont des lieux qui sont orientés vers la restauration plutôt que le marché alimentaire. D'ailleurs, on les appelle aussi pour cette raison des fautes courtes. Ils sont présentés comme les futures locomotives du centre-ville. Mais là encore, explique Olivier Rasmont, les codes du marché, le côté sympa, artisanal, convivial, occasionnel, devient finalement un argument marketing pour des lieux qui tiennent plus en réalité du centre commercial de centre-ville. Voilà, vous l'avez compris, à l'heure de la disruption alimentaire, du hard discount, du drive piéton et de la livraison à domicile, l'esprit des marchés est partout, mais le marché est nulle part dans la conversation médiatique. J'espère que nous aurons contribué à ce que ça change.
Et nous recevrons dans Grand Main Vous Fasse Olivier Rasmont pour son livre consacré au marché jeudi prochain. Benoît Lebrun.
Oui, en fait, ce qui est très intéressant dans ce que dit Jean-Laurent, c'est notamment que le marché, en fait, ça illustre une différence entre ce qu'on appelait avant un client, ce qu'on appelle aujourd'hui un consommateur. Parce que sur les marchés, on a une fidélité quand même à un certain nombre de commerçants. Et donc, on est dans une logique de client, c'est-à-dire qu'on a une espèce de loyauté, on a un sentiment de devoir à l'égard de quelqu'un, on va revenir, éventuellement il va rendre service, on peut commander des choses pour la fois prochaine, et il va même s'inquiéter si on vient pas. Et alors que, en fait, le marketing a créé la notion de consommateur, c'est-à-dire un individu qui est un électron libre, qui est totalement dans une liberté totale, et qui finalement n'a aucun devoir à l'égard de quiconque. Donc c'est intéressant parce que dans le marché, on a encore un lien social. Quand on va dans une grande surface, il y a une dépersonnalisation de la relation et on est uniquement dans un lien économique.
Et je finirai par donner un autre conseil de lecture sur le commerce physique et le retour au pas du commerce de proximité. En finir avec les idées fausses sur le commerce de Pascal Madry et Catherine Sabat, deux spécialistes de la ville et du commerce aux éditions de l'Atelier.
Raphaël Lurquin.
Oui, juste une petite remarque sur le face-à-face marché-supermarché. La concurrence, elle est aussi sur le plan politique, parce qu'on le sait, le marché, c'était le lieu de tractage. Bon. Et j'avais beaucoup discuté avec le maire de Montpellier, M. Delafosse, qui m'avait expliqué que lors des dernières municipales, lui, il avait fait le choix d'abandonner le marché pour aller au supermarché, en disant, en fait, mes électeurs à gauche, les femmes seules, les classes populaires, ils sont dans les supermarchés. Donc lui faisait des journées entières dans les supermarchés pour tracter. Donc je trouve que c'est une innovation politique là assez rigolote.
Les Français mode d'emploi de Jean-Laurent Casselli à podcaster et à partager sur l'appli Radio France.
Ali Rebéi.
Bon champagne Bernard, c'est du Dom Pérignon de chez Edgar.
Grand bien vous fasse.
Non, je préfère un petit Ricard tout simple de chez Auchan.
Sur France Inter.
Pourquoi est-on attaché aux marques? C'est notre thème ce matin avec Benoît Lebrun et Raphaël Lurquin. Benoît Lebrun, je rappelle que vous êtes professeur de marketing à l'ESCP. Est-ce que les consommateurs sont attachés aux marques distributeurs de la même manière qu'aux marques nationales?
Oui, en fait, l'attachement, c'est transcatégoriel. Et on voit bien, par exemple, l'enseigne Cora qui a disparu de Belgique, ça crée un émoi parce que les gens se sont rendus compte que il y avait l'attachement au lieu physique, que derrière l'enseigne, il y a quand même des personnes qu'on fréquente, des caissiers ou des gens qui approvisionnent les rayons. En fait, on peut s'attacher à n'importe quel type de marque, dans n'importe quelle catégorie. Mais par contre, ce qui est important, c'est de différencier l'attachement et la fidélité. C'est-à-dire que l'attachement, ça veut dire qu'on a un lien émotionnel très fort avec une marque. La fidélité, ça veut dire qu'on rachète fréquemment. Les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'on peut très bien être fidèle à une marque sans être attaché. C'est l'achat routinier fonctionnel. Et on peut très bien être attaché à une marque et ne jamais l'acheter parce que, par exemple, on n'a pas les moyens. Donc, il y a des gens qui adorent la marque Porsche et qui roulent en Skoda. Bah oui, il y en a, ça existe. Donc, il faut bien distinguer. C'est-à-dire que l'attachement, c'est quelque chose d'émotionnel. La fidélité, c'est quelque chose de comportemental. C'est deux choses différentes.
Alors, en cette période d'inflation, est-ce que la marque joue un rôle décisif dans l'achat d'un produit? Eh bien, selon une étude Kantar de 2023, tout dépend si l'on vit dans un foyer impacté par l'inflation ou non. Quand on est peu impacté, ce qui arrive en tête dans le choix d'un produit, c'est avant tout le goût à 85%, la composition à 64%, la provenance 59%, la marque à 54% et la promotion à 46%. En revanche, dans les foyers impactés par l'inflation, le goût arrive en tête à 77%, les promotions à 59%, les prix bas à 58% et loin derrière, la marque à 42%. Oui. Benoît Lebrun.
Et moi, je ne crois absolument pas dans ces sondages parce qu'encore une fois, on mesure des attitudes.
Kantar 2023.
Non, je vais expliquer pourquoi. Et rien contre Kantar, bien au contraire, mais simplement, d'abord, il faut savoir, comme j'ai expliqué dans mon livre sur Contre le pouvoir d'achat, que les gens sont totalement incapables de citer le prix de produits qu'ils viennent d'acheter. Donc ça, c'est le premier point. Donc le prix, c'est d'abord un discours et c'est pas une réalité, en fait, dans la vie des consommateurs. Et deuxième chose, quand on parle de goût, quand on fait des tests aveugles, et Dieu sait que j'ai assisté à de nombreux tests aveugles, et qu'en fait, on fait tester à des gens des produits qu'ils consomment tous les jours, ils sont incapables de faire des différences entre du Coca et de la marque distributeur. Donc, il faut faire attention, ça c'est un discours, mais ça ne renvoie pas en fait à une réalité, une pratique.
Raphaël Lurca.
Oui, une autre illustration lors des récentes émeutes urbaines qui avaient donné lieu à pas mal de pillages de magasins et notamment la grande distribution. J'avais passé beaucoup de temps à l'époque à regarder les stories Snapchat et Instagram des pilleurs. Et plusieurs d'entre eux disaient, alors déjà je fais les courses pour la daronne, alors que difficulté de pouvoir d'achat, et surtout par rapport à la question de la marque.
Je fais les courses, je vole pour la daronne.
Oui, c'est ça. C'était dit de façon humoristique, évidemment. Et surtout, je vais prendre des marques nationales. C'est-à-dire que moi, en fait, d'habitude, sur ma table de petit déjeuner, je n'ai que des marques, premier prix, discount, etc. Et bien, ça y est, les galettes bonne maman, pour la première fois, je me les prends, etc.
Qu'est-ce que ça raconte ?
Ça raconte ce que Benoît Hellebrun a théorisé comme la frustration consommatoire. C'est-à-dire que dans une société qui construit l'idée sur laquelle il y a un certain nombre de produits qu'on ne peut pas ne pas avoir, le fait d'en être privé, en fait, construit et entretient une frustration énorme et qui, à intervalles réguliers, explose.
Tiens, à ce sujet, écoutons un reportage de France 3 Alpes Côte d'Azur en 2018.
Bousculades, insultes et parfois même violences. Tout ça pour un pot de pâte à tartiner vendu 70% moins cher.
Mon Dieu !
Cette scène surréaliste s'est répétée dans plusieurs régions de France et Toulon n'a pas échappé à l'émeute. Dans ce supermarché proche du centre-ville, ce matin, comme hier, le rayon a été dévalisé en quelques minutes. Christiane et son mari sont venus aujourd'hui pour tenter d'arracher au moins un pot de Nutella. Mais le rayon est vide. Jusqu'à présent, toutes leurs tentatives sont restées vaines.
J'ai envoyé mon mari d'abord le matin. Il m'a dit qu'il y avait une queue. C'était fou, quoi. Et bon, il n'a pas pu en avoir. Tout à l'heure, les gens, ils se battent, tout ça. On est revenu hier soir. Il n'y avait plus rien. Mon mari, il est venu ce matin à l'ouverture. Il n'y avait plus rien non plus. Et là, je reviens pour voir s'il y en a. Il n'y en a plus. Mais les gens, ils se sautent dessus comme... C'est hallucinant, quoi.
Qu'est-ce que ça raconte, Benoît Hellebrun, ces émeutes autour du Nutella ? Ça raconte un attachement ? Ça raconte quoi ?
Ça raconte d'abord qu'on est totalement manipulé par des opérations de communication de marques et d'enseignes qui utilisent en fait ce type de micro-événements pour faire parler d'elles. Et on voit que ça marche parce que les médias font caisse de résonance. Donc il faudrait aussi que les médias s'interrogent là-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Nutella, c'est une marque qui a un statut à part. C'est la seule marque que les individus reconnaissent à 97% en aveugle. Je ne connais pas d'autres. Et ça veut dire qu'il y a une sacralisation, en fait, de cette marque. Et que, du coup, donc c'est pour ça qu'elle suscite de l'intérêt. Bon, en plus, c'est un produit qui est addictif. Enfin, c'est comme le Coca-Cola, c'est de la junk food qui ne dit pas son nom. Donc, c'est une marque qui a vraiment un statut à part. En plus, qui est née dans une économie de la pénurie, parce que c'était Nutella, parce qu'on utilisait des noisettes, parce qu'il n'y avait plus de poudre de cacao. Et qui est devenue la méga bombe calorique que l'on connaît.
Raphaël Lurca.
Oui, sur un plan plus politique, alors je parle sous le contrôle de Jean-Laurent Casselli, ici présent, parce que dans son livre avec Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, ils avaient fait de ces émeutes Nutella un signe avant-coureur des Gilets jaunes. Parce que précisément, ce qu'ils montraient parfaitement dans leur livre, c'est que quand on regardait Enquête à l'appui, le taux de renoncement à des produits de consommation était deux fois plus élevé chez les personnes qui se disaient proches et sympathisants des Gilets jaunes. Ça veut dire, et là on est en plein dans notre sujet, la consommation elle est politique. C'est-à-dire le fait d'être inlassablement tenu à l'écart de consommation et de produits qu'on souhaiterait s'acheter, à un moment donné, peut donner lieu à ce qu'on pourrait appeler des révoltes consommatoires. Et je pense que les Gilets jaunes peuvent s'interpréter de cette façon. façon-là.
Benoît Lebrun.
Et c'est ce qui explique le succès d'Action, c'est qu'en fait, il ne faut jamais oublier que chacun a besoin de reconnaissance et de prestige à travers des actes de consommation pour bien montrer aux autres et à lui-même, enfin soi-même, qu'on n'est pas réduit à la nécessité. Et ça, c'est une fonction très importante des marques. Chez Action, je peux acheter des choses dont je n'ai pas besoin, donc je ne suis pas dans la misère.
Pourquoi change-t-on de marque ? Par exemple, pendant des années, j'achetais des pâtes Barilla ou Panzani, et puis je change pour des De Seco. C'est quoi le motif de changement ?
Il y a plusieurs facteurs. D'abord, je me lasse. Deuxièmement, le produit a changé. On a changé, par exemple, la composition. Le prix a augmenté de façon significative.
Il y a l'irruption d'une marque innovante.
Il y a l'irruption d'une marque innovante. Je suis soumis à une offre promotionnelle inratable. Donc, je vais switcher. Enfin, je vais changer.
Ma vie de famille change.
Ma vie de famille a changé. J'ai des enfants, donc, ou j'ai un chien, donc j'ai changé mon panier. Je suis déçu par la marque. L'entreprise a dit ou fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc, il y a tout un tas de facteurs, mais c'est quand même la dimension promotionnelle qui est fondamentale.
Et au terme de cette émission, au fond, quels sont les éléments qui font qu'on s'attache à une marque ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Ouais. D'abord, la nostalgie, le fait que la marque nous accompagne pendant des années, le fait que la marque représente des valeurs auxquelles je suis attaché, et le fait que j'éprouve quand même du plaisir quand je consomme cette marque.
Voilà. Raphaël Lurca.
Moi, je raconterai quelque chose de complémentaire. Je pense que les marques, elles racontent des problèmes du quotidien. Tous ces petits irritants dont le politique ne parle pas. Les éviers bouchés, ce que ça signifie d'être coincé dans des bouchons. Et donc, toutes ces petites choses problématiques du quotidien, les marques proposent un discours de résolution de ces problèmes-là. Et donc ça, je pense que c'est quand même très important.
Merci à tous les deux. Merci Benoît Lebrun. Je recommande vraiment votre Que sais-je, incontournable. La marque s'est publiée donc chez Que sais-je. Merci Raphaël Lurca. Le roman national des marques, le nouvel imaginaire français, s'est publié par la Fondation Jean Jaurès et l'Aube.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.